magazine de l'environnement. Ce matin, balade en permaculture. Il y a quelques années, un livre était sorti qui s'intitulait « Le beau jardin du paresseux ». Somme toute, on pourrait reprendre ce titre pour notre émission de la semaine dernière. Celle qui nous voyait épandre sur le sol une épaisse couche de rameaux vifs, puis attendre que la vie se fasse. Eh bien, nous poursuivons dans cette même veine cette semaine en allant faire un tour dans le Limousin entre Angoulême et Limoges. Ici, les coupables en subsistent gaillardement. Partout, on voit des troncs couchés à terre, des bosquets rasés, des arbres taillés d'aussi près que des poteaux télégraphiques. Partout, jusqu'à ce qu'on arrive chez Steve et Yvonne Page, deux Anglais qui sont venus s'installer en France voici une quinzaine d'années pour s'essayer à la permaculture. Leur maison est dissimulée par une masse bruissante de feuillage. Dès l'arrivée, on repense à ces phrases lues dans des manuels de permaculture. Par exemple, la permaculture, c'est prendre soin de ce qui nous reste et réparer ce que nous avons détruit, Léa Harrison. Ou alors, la permaculture, c'est arranger sa vie de telle sorte qu'elle soit heureuse et abondante. On peut satisfaire à ses propres besoins sans rendre la vie d'autrui moins agréable. Les habitats humains peuvent devenir très productifs avec beaucoup moins de travail qu'il n'en faut pour les rendre destructeurs, comme le font les systèmes actuels. Steve Page, vous faites un petit peu l'inverse de ce qu'on voit d'habitude quand quelqu'un vient s'installer dans une maison. En général, elle est noyée sous la végétation et on coupe et on taille, on désherbe et on aplanit et on fait un beau champ devant la maison. Les photos que vous m'avez montrées indiquent que quand vous êtes arrivé il y a une quinzaine d'années, devant votre maison Limousine, il y avait un beau champ bien plat. Et là, aujourd'hui, c'est totalement envahi de végétation. Et c'est ça que vous vouliez?
Oui. Yes.
Oui.
That's exactly what we wanted.
C'est exactement ce qu'on voulait.
What you see in front of us here,
ce que vous voyez face à nous ici, c'est notre tentative de créer une forêt comestible.
We've been looking at the forest and,
on a observé la forêt.
Look how the forest is constructed.
On observe comment la forêt est constituée et on peut, si on veut, la diviser en niveaux.
There's the canopy.
Voilà, ça c'est la canopée, la sous-canopée, le niveau des branches, des herbes, la couverture herbeuse, et il y a des plantes grimpantes.
The plants that live underground.
Et bien sûr, les plantes qui vivent sous la terre. Donc on a, si vous voulez, sept niveaux fondamentaux. Ce que nous avons tenté de faire ici, c'est de recréer ces niveaux en utilisant des plantes qui sont utiles pour nous directement.
Tout ici est comestible.
Not necessarily comestible.
Pas obligatoirement comestible, mais...
Useful in some
utile d'une manière ou d'une autre,
for burning wood,
utile pour faire brûler le bois, utile pour le mulch, pour la nourriture, pour l'agrément,
things like that.
Des choses de genre là.
Yvonne?
Non, c'est de recréer une forêt, mais avec l'intention. Donc on regarde la structure d'une forêt. On copie, si vous voulez, mais on met ce qu'on nous on a choisi pour des plantes comestibles, des plantes médicinales, comme Steve a dit, pour brûler, pour chauffer. Et
c'est-à-dire qu'en fait, la forêt, c'est une inspiration. Vous ne faites pas de la recréation de forêt, mais vous vous inspirez de la forêt, c'est ça?
Well, it's the first principle of permaculture.
Oui, c'est le premier principe de la permaculture, c'est celui-là.
That nature is the model.
Que la nature, c'est le modèle.
Alors voilà, vous avez prononcé le mot permaculture. La permaculture, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est. Oui, je sais, ça a l'air très compliqué, mais on a un petit moment devant nous, donc on va y arriver, peut-être. La première chose tout de même qui est très frappante, c'est que la permaculture, ça reste quelque chose de totalement méconnu en France, alors qu'on a le sentiment qu'à l'étranger, pratiquement sur tous les continents, et en particulier dans tout ce qui est monde anglo-saxon, c'est quelque chose de très répandu.
Ça reste toutefois marginal dans les pays anglophones, mais c'est vraiment quelque chose d'établi. En fait, il y a suffisamment d'anglophones à travers le monde pour soutenir des gens à la marge. Alors qu'en France, il n'y a pas suffisamment de personnes pour que les livres soient traduits. Vous savez, la permaculture repose beaucoup sur l'information. Ça a à voir avec la quantité d'informations que l'on a pour prendre des décisions. Et donc, il faut lire beaucoup, c'est très utile. La permaculture, c'est pas ce qu'on voit ici. La permaculture, c'est la structure invisible qui sous-tend ce que vous voyez ici.
En fait, vous dites, Steve Page, que la permaculture, c'est une idée.
Exactement. Avant tout, c'est une idée. C'est quelque chose de très petit qu'on peut emporter avec soi dans sa poche.
Et donc, qu'on peut décliner de toutes les manières possibles?
Oui, absolument. Les idées, on peut les appliquer à la maison dans laquelle on vit, le jardin, la façon dont on vit sa vie, en fait. La façon dont on utilise l'énergie, avant tout. Toute la permaculture repose sur quelques hypothèses fondamentales. L'une d'entre elles, c'est que nous vivons dans un monde qui est entièrement créé, aujourd'hui, par l'énergie fossile. Et ça ne va pas durer très longtemps. Je pense pas. On fait face non seulement à une crise globale de l'énergie, mais une crise globale de ressources, parce qu'on détruit les choses avec notre agriculture, avec la façon dont on vit, avec les transports. Mais vous savez tout ça. Donc vraiment, c'est une tentative de faire marche arrière et d'en obtenir plus que ce qu'on y met. En permaculture, on parle beaucoup de input et output, les entrées et les sorties.
Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans avant d'en tirer quelque chose? Qu'est-ce que c'est que le input à ce moment-là? Puisque quand vous parlez de cette crise mondiale, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la prise de conscience est assez générale. Mais il y a une crainte parce que, sans doute, il y a encore très fortement l'idée, l'impression que le monde moderne a été un monde de progrès, un monde qui a permis de tirer davantage des ressources de la Terre. Et vous semblez dire l'inverse.
C'est pas véritablement pour notre avantage ou à notre avantage ce qu'on a fait. Les gens commencent à en prendre conscience. Mais c'est très difficile à passer à l'action. Des programmes efficaces pour réduire l'énergie d'une façon amusante, excitante, parce que les gens sont tellement attachés à l'aspect matériel. Pour la plupart des gens, le sens de leur vie, c'est d'accumuler des richesses matérielles. On pourrait en discuter et dire que les gens ne sont rien de plus que ça. Alors qu'on peut se développer de façon beaucoup plus intéressante avec la nature, parce que c'est tellement intéressant et profond.
Mais voilà, j'allais dire que tout de même, vous aussi, vous faites une forme d'accumulation, mais ce que vous accumulez, c'est du vivant.
Oui, l'idée de la permaculture, c'est que tout est mu par le soleil et qu'il n'y a pas besoin d'autres de sources externes d'énergie pour que les choses continuent de tourner. Bien sûr, et on a besoin d'énergie pour mettre en place les systèmes, mais l'idée, c'est que ils vont être autosuffisants. Et je peux vous donner quelques exemples. Une bonne conception en permaculture. On parle de conception de design parce que il s'agit de mettre des éléments ensemble là où on va en tirer du profit, où ils vont en profiter finalement les uns des autres. Par exemple, regardez ce kiwi.
Cet immense arbre qui couvre entièrement le mur de la maison?
Oui, c'est un grimpant. Et il a besoin d'un soutien. Un kiwi a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir donner du fruit. Et ça, c'est juste un arbre femelle. On a en moyenne 40 à 50 kilos de kiwis chaque année. On ne fait rien pour ça. Ça se produit tout seul. Et la raison pour cela, c'est que il y a un soutien, un support, qui est le mur de la maison. Le mur de la maison est inutile pour quoi que ce soit d'autre. En fait, soit dit en passant, tous les murs sud de tous les bâtiments devraient être couverts d'arbres fruitiers, et spécialement dans les villes. Donc le kiwi a besoin d'eau, et en ne mettant pas de gouttière sur le toit ici, le toit fait environ 20 mètres carrés, ça fait 20 000 litres d'eau par an, chaque année, directement dans les racines du kiwi. Donc voilà, on a réglé le problème de l'eau, la maison règle le soutien, le support, ça donne de l'ombre et d'autres choses. C'est facile à récolter parce qu'on peut utiliser des échelles. Et voilà, l'espace ici, là, c'est une chambre froide pour conserver les fruits.
La pièce que vous désignez, elle est derrière le derrière ce paravent en fait de branches, donc elle reste toujours à l'ombre.
Oui, en été. C'est à l'ombre, et en hiver, ça reçoit le soleil.
Oui, puisque le soleil traverse, en fait, à travers les branches qui sont nues.
Oui.
On ne voit pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Parce qu'il y a l'eau, il y a un soutien, les kiwis sont au bon endroit, tout ça fonctionne ensemble. Et ça n'utilise quasiment aucun espace pour produire cette quantité de nourriture produite. Donc, l'utilisation de l'espace vertical est très important parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de choses dans un espace réduit.
Et d'ailleurs, vous parliez des sept étages.
Oui, par exemple, ici, la canopée, ici, c'est le noyer. Yvonne l'a planté, elle a planté une noix il y a 14 ans. La sous-canopée, ça peut être ça, cet arbre qui est un mûrier. Ça peut être cet arbre-là aussi qui est un amélanchier. Qui produit des baies comestibles très tôt dans l'année, en juin. Voilà un autre amélanchier. C'est un amélanchier Lemarchia qui donne des baies très goûteuses et qui en produit le plus. Et là, vous avez des arbres à feuilles persistantes pendant la sous-canopée parce qu'ils peuvent vivre à l'ombre et ils ont de la lumière en hiver, comme le bambou. Le bambou est très très utile, une plante très utile. On descend à l'étage inférieur où on a les arbustes. Les arbustes forment, si vous voulez, le squelette de la forêt. Voici ici un groseilla macro. Il y a d'autres baies. Ah, ça c'est un cassey. C'est un mélange entre groseilla macro et un cassis.
Cassey.
Cassey. C'est très beau parce que ça grandit très haut et ça grandit beaucoup plus haut que les herbes, donc on peut les voir. On descend un peu plus, on a la couche herbacée. Au début, on plantait tout ici. Mais maintenant, on laisse la main à la nature et on lui permet d'évoluer.
Oui, mais la nature ne va pas nécessairement aller vers ce que vous appelez la forêt comestible, c'est-à-dire elle ne va pas nécessairement chercher ce qui est utile pour vous.
Non, c'est vrai. Mais en fait, si vous laissez à la nature un certain nombre d'éléments, elle se coulera dans quelque chose qui est utile. Par exemple, cette année, dans ce jardin, nous n'avons fait aucun travail. Il n'y a quasiment aucun travail ici. Le seul travail qui a été fait, ça a été de laisser le chemin ouvert et de récolter. Et nous sommes entourés. Regardez, il y a un pommier, un poirier. Et ça, ici, ça va être un pécan, un arbre à pécan. Je pense qu'on sera capable de produire des pécans ici. Et ça, finalement, ce sera le plus grand des arbres ici. Vous voyez, le jardin progresse, il évolue. Il commence avec des petites choses, des légumes. Mais là, maintenant, on le laisse aller. Et la plupart des choses sur le sol, bien que sauvages, sont comestibles, comme les orties.
En fait, ça signifie quand même que vous pouvez planter ici des arbres qui sont pas du tout indigènes. Parce que la noix de pécan, par exemple...
Exactement. Ce que nous faisons ici, en fait, c'est que nous faisons des essais. Voir quelles sont les plantes qui peuvent vivre ici. Parce qu'on ne sait pas pour l'instant si on va produire des noix de pécan ou pas. Parce que là, il n'a que 5 ou 6 ans. Mais j'ai le sentiment que ça va le faire.
Le kiwi a été introduit récemment en France. Le premier a été planté au Jardin des Plantes dans les années 40. Et c'est intéressant parce que depuis 1947, le kiwi du Jardin des Plantes a produit des kiwis chaque année. Donc, bien que ça vienne de Chine, c'est un arbre qui vient de Chine, ça fonctionne très bien ici, ça marche bien. Ça marche même mieux parce que tous les prédateurs ne sont pas encore arrivés.
La ressource la plus importante, c'est la terre, le sol. Et l'agriculture moderne est en train de détruire la terre.
La fertilité du sol.
La fertilité, oui. On voit tous les jours, on voit sur les routes, beaucoup de boue. Alors la boue, c'est la terre. Et même si vous regardez à côté, c'est ce genre d'agriculture qui laisse très vulnérable.
En fait, ce que vous nous montrez, c'est un champ qui a été retourné, préparé pour les semences.
Oui, oui. Mais il n'y a que quatre conditions qui construit l'humus. C'est une forêt qui n'a pas été coupée. Des prairies. Jamais coupées. Le fond des lacs. Et un jardin mulché.
Mulché, c'est-à-dire sur lequel on a mis une couverture qui...
on ne tourne jamais le sol. On n'a pas jamais tourné le sol. Donc, pour semer, on met d'abord une couche de mulch et on plante dedans. Et comme ça, les organismes ne sont pas retournés dans des conditions qu'ils n'aiment pas. Donc, ça marche beaucoup plus vite, en fait, que tourner le sol. Comme ça.
Et donc la façon de faire de l'humus, c'est d'en faire le moins possible, justement.
Oui, exactement. C'est la permaculture.
Alors ça, je crois que c'est sans doute l'idée qui trouble le plus les agriculteurs.
L'histoire
de l'agriculture, c'est une guerre contre la nature. Et pour l'instant, nous essayons de coopérer avec elle. Regardez de l'autre côté, là. Bon, c'est pas très juste d'en parler comme ça, mais chaque fois que la terre est retournée, on perd du sol, on perd de la terre. Donc en fait, nous, ici, on a mis cette grande levée de terre pour retenir la terre, parce que vous voyez, le vent d'est vient par là, et donc ce sol est empoisonné, et nous n'en voulons pas. Et nous ne voulons pas qu'il vienne sur le nôtre.
Il est empoisonné parce qu'il y a des produits, des pesticides et tout ça.
Oui. Autre chose sur le fait que l'on retourne toujours le sol à la même profondeur, on a une couche comme une semelle très très dure que les plantes ne peuvent pas traverser. Donc vous voyez beaucoup de plantes ici autour, comme des pissenlits, qui sont là grâce à leurs racines pivotantes très puissantes, peuvent briser les mottes. Et vous les voyez toujours apparaître sur les chemins qui sont de la terre compactée. Et après avoir observé la nature longtemps, il semble que la nature met des plantes en situation là où elles vont améliorer les choses. La nature essaie toujours d'améliorer les conditions.
On avance là vers la régénération, c'est ça, vers le champ de régénération. Et effectivement, vous nous montrez partout... Des arbres qui vont donner des fruits.
Oui.
Mais vous dites aussi que ce jardin, il est destiné non seulement à donner des fruits, mais à capturer le soleil.
Yes, because we've taken the principle of.
On a adopté les principes de la forêt. Mais en fait, une forêt est trop sombre pour faire croître des arbres fruitiers. C'est là où la conception de la permaculture entre en jeu. On ne prend pas simplement le modèle de la nature, de la forêt. Ici, on a créé un jardin. Ça capture le soleil. C'est face au sud. Donc, tous les grands arbres sont au fond. Et quand on descend vers le sud, les arbres sont de plus en plus petits, il y a plus d'arbustes, d'espace ouvert pour cultiver des légumes. Donc on a cet anneau de brise-vent au nord et au nord-est et au nord-ouest. Et vers l'est et l'ouest, on a mis des brise-vents, effectivement, qui empêche la température de trop descendre dans le jardin. Et il y a un point très très chaud ici, c'est là où on a planté le figuier. Le figuier a besoin évidemment de chaleur, c'est un peu marginal ici, en raison de notre altitude qui est à 300 mètres.
On est au pied du massif central ici. Mais en vous écoutant, Steve Page, je me dis que ça, tout ce que vous décrivez là, c'est des heures et des heures et peut-être des années d'observation.
C'est vrai. La permaculture est basée sur l'observation de la nature. L'un des problèmes, c'est que il n'y en a plus tellement.
De nature, il n'y en a plus?
Oui, non. Il y a toujours de la nature. En fait, c'est qu'il n'y a plus rien de la vie sauvage en Europe. Et l'endroit le plus près où il y ait un peu de vie sauvage, véritablement, c'est à l'est de la Pologne. La forêt de Białowieża, qui n'a quasiment jamais été taillée.
Et c'est vrai que l'observation, c'est à la base de la permaculture. Prendre le temps de regarder et prendre le temps n'est pas très populaire, il me semble, maintenant. Les gens, il faut qu'on ait vu comme quelqu'un qui est très dynamique, qui fait des choses tout le temps, qui travaille. Il faut travailler. Et ça veut dire que pour la plupart du temps, maintenant, c'est autour de nous, on voit que travailler veut dire, par exemple, couper les arbres et pas laisser les arbres. Mais beaucoup de permaculture consiste à laisser nature faire le travail. Et donc, souvent, on est vu comme paresseux.
Mais est-ce que tout de même, il n'y a pas des plantes qui arrivent ici et que vous ne vouliez pas et qui peuvent être envahissantes, qui peuvent empêcher d'autres plantes de... Non, vous faites... vraiment, ça n'a pas l'air d'être votre problème.
Non, ce type de problème arrive quand vous essayez de faire de la monoculture. Toute l'idée de plantes invasives, ça vient de l'état d'esprit de conserver les champs propres, nets, et c'est pas très utile. Parce que toute cette façon de faire la propreté, ça prend du temps. Nous vivons dans un paysage de monoculture et nous vivons dans une monoculture mentale.
Alors si on revient sur le nom permaculture, je crois que c'est Bill Mollison qui disait que la permaculture, au départ, c'était de l'agriculture permanente, mais que plus il y pense et plus, dans son esprit, c'est de la culture permanente.
Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Parce qu'on ne peut pas isoler l'agriculture de la vie que l'on vit, à la maison, dans la maison où vous habitez, et la façon dont les gens s'organisent, organisent leur vie. Donc, c'est le pays, les communautés, la façon dont les gens vivent. C'est ça la permaculture. Appliquer la permaculture, les idées de la permaculture à toutes ces choses-là. Dans les climats tempérés sous lesquels nous vivons, 50% de la permaculture concerne les maisons. Les maisons que nous construisons, elles sont orientées, elles sont mal orientées. Il n'y a pas de pensée qui a été mise en avant pour capturer le soleil et utiliser très peu d'énergie.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture écologique, par contre.
Pour vous,
ça fait partie intégrante de la permaculture.
Oui. L'un des problèmes avec l'architecture, comme ça, c'est que c'est souvent, les gens utilisent beaucoup, beaucoup d'énergie fossile pour créer des structures qui ne sont pas très utiles et qui ne se remboursent pas en termes d'énergie. Et donc même des choses comme les panneaux solaires qui sont utilisés, c'est pas des très bonnes idées ça, ils sont pas très efficaces. Ils produisent rarement autant d'énergie qu'ils prennent pour être faits eux-mêmes.
Et alors vous, comment est-ce que vous faites? Vous ne chauffez pas?
Voilà, avec du bois.
Renouvelable.
Le bois, c'est totalement renouvelable.
La seule source d'énergie pour le chauffage devrait être le bois.
Dans les endroits où il y a encore beaucoup de bois, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer ça dans les endroits où la déforestation a été très forte.
That's true.
C'est... nous avons besoin d'une beaucoup de volonté de la part du gouvernement pour installer des programmes de replanter des forêts. C'est ça qui est... maintenant, par exemple, quand je voyage dans le train à Paris, à la place des arbres, on a des éoliennes parce qu'il y a trop de vent. Donc, ce sont des nouveaux arbres.
On continue, on avance. Ici, vous avez taillé ou pas, non? Là. Ah, on nettoie alors parfois.
Oui, j'aime bien les ronces. j'aime bien travailler dans les ronces, c'est très méditatif.
Donc c'est plus pour le plaisir de la méditation que vous coupez les rondes?
Oui, et pour pouvoir circuler un peu aussi. Et pour les murs.
Ah,
je l'ai des murs.
Mais est-ce que vous avez des... Qu'est-ce que vous montrez là? C'est des bourgeons en train d'éclater, c'est beau.
C'est un lime, tilleul. Ouais. Juste comme les feuilles sourdes, comme ça, elles sont comestibles de cette plante. Ouais. Donc...
Aujourd'hui. Juste au moment où elles sortent.
Oui, parce qu'après, ils sont trop pas très délicats, comme ça.
Donc, on va croquer des bourgeons?
Ouais.
Mais est-ce que vous trouvez de quoi manger toute l'année dans ce jardin?
Non, not at all.
Pas du tout. Le but du jardin n'est pas de fournir toute notre nourriture, c'est de fournir autant que possible des choses utiles sans beaucoup travailler pour les obtenir. Les légumes et la nourriture que l'on consomme a une empreinte écologique faible. Le transport de cette nourriture, oui, mais la nourriture elle-même est une partie très faible de l'énergie que l'on utilise. La plus grande partie de nos efforts ici sont plus pour produire des combustibles, du bois, pour cuire et chauffer l'eau et nous chauffer en hiver. Et donc on a acheté... On n'a pas acheté de fuel, à part simplement cette bouteille de gaz au cours des 15 dernières années. Nous n'avons pas de facture de chauffage. Le reste de notre terrain, qui est d'un hectare, un hectare et demi, est véritablement destiné à faire pousser du bois. Cette partie du pré fait un demi-hectare et une moitié a été laissée en jachère sans intervention d'aucune sorte pendant 8 ans. Et la partie au fond, que l'on va voir après, a été mise en jachère pendant 15 ans. On n'y a rien fait, sauf simplement conserver les chemins. Vous savez, le problème de l'herbe, c'est que c'est pas bon pour l'agriculture. Vous voyez des prés tout autour ici. Ce sont des imitations des prairies. Et les prairies sont en fait formées naturellement dans des zones sèches, arides. Regardez par exemple sur la Terre, vous voyez les pôles, vous voyez les forêts, les prairies et le désert. Et en fait, les prairies sont une façon de produire un écosystème global avec peu de précipitations. La raison pour laquelle l'herbe peut survivre avec peu de précipitations, c'est qu'elle a un matelas de racines très épais, juste sous la surface du sol. Et en fait, ça absorbe toute l'eau des précipitations, et le sol sous l'herbe est très sec. Et les arbres ont besoin d'eau pour s'établir. Et l'herbe, en fait, est l'ennemi des arbres. Parce que les arbres ne peuvent pas avoir d'eau. Lorsque l'eau finit par traverser cet épais matelas d'herbe, eh bien, il n'y en a plus. Dans un pays comme la France, où il y a de bonnes précipitations, ce qui se produit avec les prés, quand il pleut, c'est qu'il y a beaucoup de ruissellement. Et cette eau ne pénètre pas le sol. Et toute cette eau va finalement à la mer. Ça n'a aucune utilité.
Le
premier problème de la nature, c'est qu'il faut éliminer cette herbe. Ce n'est pas le bon écosystème pour ces précipitations ici. La façon dont elle le fait, c'est en obstruant la lumière avec des étages successifs de ronces qui excluent toute lumière et l'herbe meurt. Et à la seconde où l'herbe meurt, l'eau infiltre le sol et l'eau, ben c'est la base de vie. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est soudain, il y a des mini-forêts qui sont en place. Ici, on a des ajoncs, qui est un fixateur de l'azote, qui améliore la qualité du sol, qui inclut donc de l'azote. Et ces ronces sont une sorte de pansement léger sur, vous voyez, sur le sol, ça protège du soleil. Et il y a ici énormément de fruits. Il y a des oiseaux, des rongeurs, il y a beaucoup de vie ici. Et les mammifères, les gros mammifères sont exclus parce que ce sont les prédateurs des arbres. Les arbres font croître des branches basses pour avoir une sorte de véranda. Donc là c'est bien, on a tué l'herbe, on a plus d'eau, c'est beaucoup plus productif que les prés, on a des kilos de ronciers ici. Et tous les arbres croissent. Si on peut aller voir ce qui a été mis en jachère pendant 15 ans, on va voir ce qui est arrivé aux ronces.
Ah, c'est incroyable, il n'y a plus de ronces.
Oui, à la seconde où la canopée se ferme, les ronces disparaissent. Elles deviennent dormantes. Comme ça.
Ah oui.
Elles attendent la prochaine catastrophe. La tempête.
En cas de tempête,
qui fait tomber les arbres.
Mais là, on est effectivement dans une forêt.
Oui.
C'est une forêt qui a 15 ans. Voici ce que fournit la nature. Voici un chêne.
Un tremble. Châtaignier, c'est noisetier, c'est
noisetier.
All those are very good burning woods, and they
ça,
all.
Ça fournit de l'excellent bois de chauffage. Et là, c'est sans taillis.
And I've already started to cut.
J'ai commencé à couper en fait des arbres pour notre bois de chauffage.
Donc vous pouvez récolter maintenant les arbres de cette forêt qui a 15 ans et donc 7 ans de plus que la ronceraie qui est juste à côté, c'est ça?
Yeah, exactement. Yeah.
En fait c'est très rapide.
Very rapid, oui. Yeah.
L'insectes sont à la base de tout cela, en termes de vie.
Et
nous essayons d'accueillir autant d'insectes que possible dans le jardin, parce qu'ils sont véritablement le fondement de la pollinisation et de la décomposition.
Ça, c'est les principes qu'on commence à bien connaître en agriculture biologique, biodynamique. De quelle manière est-ce que dans la permaculture, le travail des insectes joue? Est-ce que c'est la même chose?
Yes.
Oui.
Essentially, yes.
Fondamentalement, oui. C'est la reconnaissance du fait que les insectes font partie intégrante du système. Ils doivent être encouragés et non éliminés. On passe beaucoup de temps à tenter de les éliminer. En fait, on essaye d'accueillir beaucoup plus de choses dans le jardin et même les prétendues maladies.
Pourquoi?
Because...
Pour l'équilibre.
Yeah.
Oui, parce que à la fin, même si c'est pas très équilibré au début, à la fin, c'est impossible pour la nature de ne pas s'équilibrer. Donc, vous avez une insecte qui, je sais pas, qui mange des haricots, au lieu de les sulfater, comme ils disent ici, il faut les laisser et peut-être l'année prochaine, les prédateurs de cet insecte vont découvrir que c'est bon dans ce jardin, il y a beaucoup à manger. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'intervenir. Il faut pas avoir peur, c'est ça. Parce que beaucoup d'actions sont nées de la peur.
Alors, certainement la peur, mais quand même, Yvonne et Steve, c'est dû aussi au fait que, vous nous le disiez tout à l'heure, vous ne preniez pas dans ce jardin tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir.
Non.
C'est vrai que quand ça devient une activité qui est une activité nourricière, est-ce qu'on peut quand même faire de la permaculture, ou bien est-ce que c'est le luxe de personnes qui ont un métier par ailleurs, qui peuvent acheter ce dont elles ont besoin?
Oui, mais la permaculture n'est que produire de la nourriture. Comme Steve a dit, ça produit notre chauffage. Et déjà, de ne pas avoir une facture pour le chauffage, ça nous permet de acheter des pommes de terre, parce que nous n'avons pas un champ de pommes de terre pour l'année.
Oui, mais
est-ce que... c'est pas vraiment le but d'être autosuffisant, parce que ce n'est pas seulement impossible, mais c'est pas vraiment desirable.
Désirable. Mais la question que je posais là, c'est qu'est-ce qui se passerait si tout le monde passait à la permaculture? Vous pourriez plus acheter de pommes de terre?
Si, parce qu'il y aura des gens qui aiment cultiver des pommes de terre utilisant les principes de la permaculture. Donc, nous ne sommes pas tous pareils, donc nous n'avons pas tous les mêmes envies ou façons de vivre, donc... c'est une question de
choix.
De céder.
De coopération. Oui,
on peut faire un troc entre les kiwis, oui, pour les pommes de terre, oui, par exemple. Oui. Parce que l'autosuffisance n'est pas très désirable, c'est isolant.
Nous n'avons pas un champ de coton pour nos vêtements.
When people talk about self-sufficiency, they talk principally.
Quand les gens parlent d'autosuffisance, ils parlent de nourriture, principalement. Mais comme je l'ai dit précédemment, la nourriture est une partie très faible de ce que nous faisons, de ce que tout le monde fait. Tout le monde a besoin de transport, de maison, de vêtements, de chauffage. C'est beaucoup plus difficile à fournir dans un monde de faible énergie que la nourriture. La nourriture a toujours été là. C'est facile à faire croître. Mais pour l'instant, personne ne fait ou n'obtient de la nourriture. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plus d'énergie qu'ils n'en retirent. Donc d'où vient cette énergie? Cette énergie vient de l'énergie fossile et du tiers-monde.
Là, vous dites deux choses qui me paraissent importantes, et je crois que j'aimerais que vous en parliez un peu davantage. C'est d'une part le fait que la permaculture, vous l'avez dit tout à l'heure, mais là on le comprend peut-être mieux, la permaculture, ce n'est pas uniquement de la culture alimentaire, mais c'est une façon de concevoir l'ensemble de la production des moyens d'existence, finalement, d'une certaine manière. Et aussi, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est quand vous dites on ne peut pas s'isoler, on est obligé d'être dans un lien social.
Nobody can live on their own.
Si ce n'est que la permaculture étant aujourd'hui quelque chose d'encore très réduit, très restreint, très peu connu, comment est-ce que vous arrivez à franchir le mur et à établir quand même des relations sociales à partir de votre mode de vie, qui est pour l'instant très marginal?
Mais une partie de la permaculture, c'est de coopérer avec les autres. Donc, les deux ne sont pas exclusives. Ce n'est pas une question de ça ou ça. C'est une direction dans laquelle on regarde. Si on regarde dans une direction de travail industriel, si vous voulez, c'est une direction. C'est la permaculture, c'est une autre direction. Donc, si on a cette idée dans la tête, on voit tout dans une différente façon. Donc, si vous voulez, c'est
un changement de perspective.
Oui, c'est ça.
Et en fait, ce qui est assez fascinant quand on vous écoute, c'est que finalement, votre façon de décrire le monde et la vie ressemble beaucoup au système végétal lui-même, qui travaille énormément sur la coopération, sur le fait que certaines plantes préparent le terrain pour d'autres, etc. Alors qu'on a tellement tendance à mettre en avant la concurrence, la compétition.
Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Oui. Ce n'est pas une question de concurrence, mais le monde qu'on voit maintenant, c'est basé sur la concurrence. Mais en fait, quand vous dites les plantes vivent ensemble, ils ne se tuent pas. C'est pas
le but. Parce que même quand elles disparaissent, elles restent en dormance. Elles sont toujours là.
Oui, oui.
And they succeed one another. It's a sort of dance.
La danse de la vie.
Yeah.
Et nous sommes la nature. Nous ne sommes pas à part de la nature. C'est de nous regarder comme à part de la nature au lieu d'une part de la nature, à mon avis, c'est une erreur un peu fatale. C'est dangereux, dangereux.
Mais ici, par exemple, Steve Page, là, on est dans une extension sur laquelle vous avez encore très peu travaillé. Donc, on voit un énorme tas de ronces surmontées par des fougères auxquelles vous ne touchez pas et vous ne toucherez pas. Vous étiez en train de nous expliquer que c'était un excellent moyen de ramener l'eau vers la surface et de tuer l'herbe. Mais est-ce que vous allez planter directement dans ce tas ou bien est-ce que vous allez faire éclaircir ?
Non, on ne va pas l'éclaircir du tout. Ce que j'ai fait ici, des fougères et des ronces comme ça sont des indicateurs d'un sol très pauvre. Et ce sol a été utilisé pour faire grandir des arbres de Noël. Donc c'est un sol très pauvre, c'est très sec et il n'y a quasiment rien dedans.
Et
les fougères, c'est un genre de phosphate, c'est une base de vie. Donc ça croît et ça accroît les phosphates dans le sol. On a creusé aussi quelques fosses, quelques tranchées, selon la ligne de contour. Et quand la pluie ruisselle des prés, ces tranchées capturent l'eau de pluie, et en raison de leur niveau, eh bien, l'eau ne s'échappe pas et rentre lentement dans le sol. Donc c'est très à l'avance des plantations. On accroît ici la capacité du sol à stocker de l'eau, qui est très importante. Et ça, on le fait simplement, ça se produit parce qu'on a creusé ces tranchées. Et chaque année, ça devient de plus en plus humide.
Là encore, ça demande observation et connaissance.
Exact. Yeah.
Oui.
And it also creates
ça crée également une sorte de forme dans le paysage, parce que le côté le plus élevé du fossé est sec et le côté le plus bas est humide. Donc un côté est idéal pour des arbres fruitiers qui n'aiment pas le sol trop humide, et le côté le plus bas, le plus humide, est très bon pour les baies, parce que les baies aiment beaucoup l'eau. Et en faisant quelque chose de très simple, une demi-journée de travail dans le paysage, nous nous assurons des récoltes futures. Et ça, c'est une terre sûre. Elle ne s'érode pas. Voyez, regardez, tout le terrain autour perd de la fertilité. Et là, ici, la fertilité croît, et c'est très inhabituel, on ne le voit jamais, peut-être dans quelques jardins. Et bien voilà, ça a l'air d'un vrai bazar et tout le monde a horreur de ça, mais c'est tellement productif.
Ce qui est amusant, c'est que vous continuez, à chaque fois qu'on arrive devant un nouveau pan du jardin, à chaque fois vous nous dites ça a l'air d'un véritable bazar, comme si votre œil ne s'était pas habitué quand même à ce type de paysage.
C'est vrai, mais en fait, regardez, c'est comme ça que ça devrait avoir l'air si on le laisse faire.
Mais il faudrait presque se forcer à laisser la nature faire. On a envie d'organiser, de ranger, de nettoyer.
Je crois qu'il y a une place pour tout. En permaculture, si vous voulez élaguer, être très net, très propre, ça va, ça marche. Mais cette notion de propreté, c'est l'ennemi de la nature. La nature n'est pas nette.
Le problème, c'est que si on a du pétrole, c'est trop facile de nettoyer une grande surface. Si on fait tout, à la main, forcément, c'est beaucoup plus lent.
On fait beaucoup moins.
On fait beaucoup moins. On est moins dangereux.
En fait, le pétrole, c'est très puissant. Quand on pense qu'un litre de pétrole peut emmener un bus avec 15 personnes et leurs bagages et tout ça, et monter 10 kilomètres en montagne, imaginez la quantité d'énergie qu'il y a dans un petit jerrycan de pétrole. Imaginez l'énergie nécessaire pour le même travail, nourrir tous ces gens et tous les animaux nécessaires. Vous voyez, le pétrole, c'est une catégorie complètement différente. Nous, on est habitués à avoir toute cette énergie disponible et on l'utilise pour des usages très très banaux. Dès que cette énergie va disparaître, ils disent en France, mais bon, on a le nucléaire. Mais en fait, on ne peut pas construire et faire tourner une centrale nucléaire sans pétrole, on ne peut pas la garder, la suivre. Donc, toute l'économie, toute la façon dont on fait les choses est basée sur une ressource qui, tôt ou tard, va disparaître, s'assécher. Et le plus rapidement on met en place ce type de système-là, le plus rapidement on aura à manger. Une autre chose intéressante au sujet de la consommation d'énergie, c'est que si on superpose un graphique de la population mondiale sur un graphique de l'énergie mondiale, c'est la même chose. Donc, la population mondiale est entièrement dépendante de l'énergie disponible qui est utilisée. Et lorsque l'énergie va décroître, la population va décroître également. L'éthique, c'est la règle du jeu. Ça dépend de nous si on joue le jeu ou non, mais ça, ce sont les règles. Et les règles, c'est prendre soin de la Terre, des humains et l'équité.
Il y a une autre chose que vous aimez bien dire, Steve Page, c'est le problème est la solution.
Oui, c'est cela. Diviser les choses entre problèmes et solutions, ce n'est pas une bonne manière de réfléchir. Il faut voir les avantages des situations plutôt que les désavantages. C'est simplement ça.
Ouais.
Toute chose est un don. Même les problèmes.
Je ne
sais pas.
Eh
bien, la permaculture elle-même est considérée comme une réponse à un problème de la dégradation du paysage en ferme industrielle. Alors on pourrait dire que la permaculture est née d'un problème, mais quand on y pense, c'est toujours le cas. Chaque fois que quelque chose va dans une direction, va trop loin dans une direction, dans un sens, il y a quelque chose d'autre qui apparaît pour l'équilibrer. On peut l'observer dans la nature.
Il y a quelque chose aussi qui m'a frappé quand j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture, c'est le fait que en Australie et au Japon, pratiquement dans les mêmes années, deux hommes qui ne s'étaient jamais rencontrés aient eu la même idée, qu'on appelle la permaculture. Fukuoka d'un côté, Bill Mollison de l'autre.
Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Vous venez d'expliquer ce que moi j'essaie d'expliquer. Et qui est que Fukuoka a développé ses fermes en réponse à ce qu'il a considéré comme être une industrialisation de la culture du riz au Japon, et Mollison a fait exactement la même chose. Donc c'est pas surprenant que ces choses apparaissent dans diverses parties de la planète en même temps. C'est pas surprenant.
Vous pourrez télécharger cette émission avec Steve et Yvonne Page pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pourrez également consulter notre revue de web hebdomadaire et même réécouter les émissions des deux mois précédents. Pour avoir une bibliographie, il est également possible de nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou encore de nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. La semaine prochaine, c'est Phytobar à nouveau, jeudi 3 mai à 19h. Nous fêterons la nature, le Phytobar, 47 boulevard Saint-Germain à Maubert Mutualité. Vous êtes les bienvenus. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Philippe Mercher. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous. traduction de Michel Zlotowski.